Mesdames et messieurs, chers auditeurs, auditrices, Marguerite Yourcenar a consacré une importante partie des mémoires d'Adrien aux années 117-123, qui correspondent à la période où le nouvel empereur, après l'échec de la guerre menée par son prédécesseur contre les Parthes, procède à la remise en ordre du monde gréco-romain. Aussi a-t-elle donné pour titre à ce chapitre un des slogans politiques que l'on trouve dans le monnayage impérial de l'époque, « Tellus stabilita », la terre rendue à sa stabilité. La longue marche d'Adrien depuis la Syrie jusqu'à Rome l'a peu retenue. Elle fait certes état de la guerre menée par l'empereur contre les Sarmates le long des provinces danubiennes au printemps 118. Mais elle est pratiquement muette sur la traversée de l'Asie mineure. Comme si l'inscription d'Ancyre de Galatie, qui atteste, on s'en souvient peut-être, le passage du cortège impérial par ce nœud routier, lui avait échappé. En réalité, on a la preuve du contraire. Puisque quand Adrien tentait encore de détourner Trajan d'une nouvelle campagne orientale en 116, elle fait dire ceci à son héros. « Mon ami Latinius Alexander, qui descendait d'une des vieilles familles royales d'Asie mineure, ne fut pas davantage écouté. » Page 88. Ce personnage, ignoré des sources littéraires, n'est autre en effet que l'aristocrate galate Latinius Alexandros, qui, au témoignage de cette inscription même, prit soin d'accueillir à Ancyre le prince et son armée, ses stratagemata. Autrement dit, c'est de manière délibérée que l'auteur des mémoires a escamoté cet épisode pour en évoquer un autre, survenu prétendument en Mysie, une chasse où l'empereur faillit tomber dans une embuscade tendue par le sénateur d'origine maure Lusius Quietus. Or, Yourcenar a imaginé cela dans le sillage d'un érudit allemand, von Premonstein, qui, en 1908, croyait pouvoir établir un étrange va-et-vient d'Adrien en Asie mineure pour y situer un attentat manqué de quelques consulaires contre le nouvel empereur. Hypothèse d'autant plus invraisemblable que Lusius Quietus, relevé des 117 de son commandement sur les cavaliers maures, ne fut sans doute pas du voyage, mais rentra directement d'Antioche en Italie. Si donc Yourcenar a pris ce curieux parti, au lieu de suivre sagement, comme elle fait d'ordinaire, la voie tracée par Wilhelm Weber, en 1907 déjà, c'est qu'elle a voulu mieux préparer son lecteur à l'un des actes d'Adrien les plus vivement critiqués, sévèrement condamnés, dès l'Antiquité, l'élimination brutale de 4 sénateurs parmi les plus en vue. On lit en effet chez l'historien Dion Cassius, vous avez ce texte dans votre dossier, que ceux qui furent tués au début du règne étaient Palma et Celsus d'un côté, Nigrinus et Lusius de l'autre, les premiers pour la raison qu'il lui avait tendu une embuscade lors d'une chasse, les seconds pour d'autres griefs. Il y eut donc bel et bien une chasse, terra, même si l'histoire auguste, elle, parle d'une cérémonie de sacrifice. Vous avez ce texte également, « Sacrificanti Adriano », ce qui n'est peut-être pas incompatible. Mais on voit que cette chasse n'est nullement située, présentée comme, dans nos sources comme s'étant déroulée en Mysie et que Lusius n'est pas de ceux qui sont censés y avoir participé. Là encore, cependant, le choix de Yourcenar n'est pas totalement arbitraire. Si chez elle, le complot a pour théâtre la Mysie, c'est qu'Adrien y mena des chasses mémorables et qu'il y fonda une ville connue sous le nom de Adrianu Terrae, les chasses d'Adrien, destinées, comme écrit l'auteur, page 137, à servir d'emporium aux forestiers de l'Asie mineure. Au milieu de cette région effectivement très boisée, que notre maître Louis Robert, en 1982 encore, s'était plu à évoquer à travers l'éloquent témoignage des anciens voyageurs, et cela en rapport justement avec avec Adrien, qu'un document trouvé peu auparavant dans ce pays identifiait à Zeus chasseur, dia cunegesion, chose qui, on le voit d'après le texte, avait d'abord été méconnue. Mais cette activité synergétique en Mysie n'eut lieu que plus tard, qu'on le verra encore en temps et lieu, et pas lors du passage très rapide de l'automne 117. Relevons enfin que si l'auteur des mémoires a jugé nécessaire d'imputer à Lucius Quietus la responsabilité de l'attentat, c'est que ce personnage était effectivement des quatre sénateurs brutalement éliminés, le plus suspect d'intentions hostiles à l'égard de l'empereur, alors que son supposé complice Gaius Avidius Nigrinus se trouvait être, selon toute apparence, un homme beaucoup plus recommandable, mais peut-être pas moins irrité après la décision d'Adrien de le démettre de ses importantes fonctions en Dacie. Car on sait que ce lettré, donc Nigrinus, était lettré, ami de Plutarque. Il avait fait d'ailleurs un assez long séjour en Grèce, envoyé en tant que legatus Augusti pro praetore par Trajan vers 110 pour régler par le biais d'arbitrage plusieurs conflits de frontières entre les gens de Delphes et leurs voisins, comme nous l'a appris de longue date un beau dossier bilingue dont l'étude a été renouvelée naguère par Denis Rousset dans sa thèse sur le territoire de Delphes. Le complot de Lucius Quietus pouvait donc suffire à justifier d'une certaine façon l'élimination expéditive de ce carteron de sénateur, chose dont Adrien, du reste, à en croire cette fois son authentique biographie alléguée ici par l'une de nos sources, refusait d'endosser la responsabilité. C'est donc son ancien tuteur, le préfet du prétoire Acilius Atianus, qui prit la chose sur lui pour garantir l'innocence du prince. Celui-ci, dans un premier temps, aurait fait mine d'être très fâché, jugeant le préfet seul coupable de ce quadruple attentat perpétré en quatre points de l'Italie. En réalité, il ne lui en tint pas très longtemps rigueur, car comme Yourcenar le fait dire à Adrien, il ne faudrait pas s'exagérer l'étendue de sa disgrâce. Page 110. De fait, en 119, au témoignage de l'histoire Auguste cette fois, chapitre 9, le chevalier Atianus reçut pour prix de ses services les ornements consulaires, ce qui lui permit d'accéder au Sénat comme d'autres préfets avant lui, notamment Séjan. Mais il fut remplacé dans son poste par le dévoué Marcius Turbo, qui obtenait ainsi la récompense de son activité sur tous les fronts depuis l'an 113. On ne s'arrêtera guère ici sur le temps qu'Adrien passa à Rome, entre l'été 118 et le début de 121, date de son départ pour les provinces occidentales. D'autant moins qu'il n'est guère aisé de distinguer ce qui, parmi les mesures qu'on lui attribue en vrac pendant ses séjours dans la capitale, appartient en propre à cette période-là. L'une des mesures, cependant, est datée précisément de 118. Il s'agit de l'acte par lequel, au lendemain même de son arrivée, le 9 juillet, il fit remise des dettes que les citoyens romains devaient au fisc impérial, sinon au trésor public, comme l'affirme Dion Cassius, et cela pour une durée de 15 ans. Une célèbre inscription de Rome, que vous avez dans votre dossier, de même qu'un relief atteste cette libéralité en signe de joyeux avènement de la part d'un empereur qui, par ailleurs, se montra très soucieux de l'état des finances publiques. On signalera aussi, pour mémoire, que plusieurs des belles inscriptions latines où se trouve transcrit le procès-verbal des séances du vénérable collège des frères Arval, où Adrien fut accueilli le jour même de son arrivée à Rome, se rapportent précisément à ces années 118-120. Elles sont aisément consultables dans l'édition minutieuse qu'en a donnée naguère notre collègue John Scheid. On ne saurait douter qu'Adrien fut dès alors actif sur bien des plans, en particulier dans le domaine édilitaire, avec la construction du temple de Vénus et de Roma, tandis que, chose à première vue singulière et d'ailleurs mal accueillie par le public, il fit détruire un théâtre élevé par son prédécesseur au Champ de Mars. Mais peut-être était-ce déjà en prévision de l'édification du nouveau Panthéon, qui sera, on le sait, le chef-d'œuvre architectural de son principat. Il ne refusa pas à la population urbaine les grands spectacles de chasse et les combats de gladiateurs dont elle était friande. D'une manière plus générale, il paraît avoir voulu répondre à l'attente du Senatus Populusque Romanus en essayant de rattraper le retard que l'absence d'un empereur pendant 5 ans, entre le départ de Trajan en 113 et son retour à lui en 118. Et cela n'avait pu manquer de provoquer des retards sur le plan administratif et législatif. C'est pourquoi d'ailleurs, il fut à nouveau consul dans le premier quadrimestre de l'an 119, pour une troisième fois, donc, et d'ailleurs dernière fois. Mais le plus urgent, sans doute, était de conduire d'importantes réformes militaires ou paramilitaires, comme celle du cursus publicus, le service de la poste dont fait état l'histoire auguste et dont nous aurons à reparler à propos de deux édits en grec, cette fois récemment découverts. Il ne négligera pas non plus l'Italie, qu'il divisa en 4 circonscriptions judiciaires. Cette carte ne montre pas ces 4 régiones, pour alléger les tribunaux romains, ce qui tendait du reste à faire de la péninsule une province comme les autres. On sait qu'il parcourut la Campanie au moins une fois pendant ces années-là. Il se pourrait bien d'autre part qu'au printemps 122, il ait traversé l'ancienne province de Gaule Cisalpine, c'est-à-dire donc la région padane, puisque c'est à cette date qu'il partit pour les Gaules, comme le dit l'histoire Auguste, chapitre 10, Profectus est per Gallias, en ajoutant avec plus de conviction que de précision qu'il les releva toutes sous blevavit omnes par ses libéralités. Mais en vérité, on s'aperçoit que l'itinéraire du grand voyage occidental est loin d'être bien établi, en dépit de l'abondante documentation épigraphique et archéologique produite par les recherches sur la Gaule romaine. Depuis 1986, dans le sillage de l'ouvrage de référence qu'est l'étude sur les itinéras principum de l'historien allemand Helmut Halfmann, plusieurs historiens sont d'avis qu'Adrien dut s'embarquer à Ostie pour Massalia et qu'il remonta à la vallée du Rhône pour gagner la capitale des Trois Gaules, Lugdunum, où il aurait pu passer l'hiver 121-122. Cette ville de Lyon, déjà passablement cosmopolite, avec des aménagements urbains qui la faisaient ressembler un peu aux métropoles de l'Orient grec, sinon même à la capitale, lui eut certes procuré un séjour agréable. Mais, comme le montre la carte empruntée au catalogue de l'exposition du British Museum sur Adrien en 2008, d'autres spécialistes sont restés fidèles à l'opinion de Wilhelm Weber, selon qui l'empereur ne passa à Lyon, et sans doute ensuite à Marseille, qu'à son retour de Bretagne. À l'aller donc, il aurait donné la priorité absolue aux provinces rhénanes, c'est-à-dire aux armées, dont il voulait restaurer la discipline, ainsi que cela ressort assez clairement de l'histoire auguste. Dès lors, Adrien aurait gagné le Rhin plus directement par le col du Grand Saint-Bernard, disons par la vallée d'Ost, ce col qui était ouvert depuis l'époque de Claude déjà. Il aurait traversé donc le plateau suisse qui faisait partie de la Germanie supérieure avec un camp légionnaire à Vindonissa, non loin du Rhin. Mais il aurait pu tout aussi bien se diriger d'abord par les Alpes juliennes vers les provinces de Rhétie et de Norique, puis en 122 continuer son inspection le long du Rhin en passant par Mayence, Cologne, en Germanie inférieure, puis pour aller finalement jusqu'à Xanten, Castra Vetera, et peut-être en passant par Nimeg, Noviomagus, jusqu'à l'embouchure du fleuve, où l'on connaît de fait une localité appelée Forum Adriani. De fait, si Marguerite Yourcenar a réservé une place relativement importante à ce voyage rhénan qui était censé évoquer pour l'empereur bien des souvenirs de sa vie d'officier, elle est passée très vite sur la traversée de la Gaule et sur le voyage dans la péninsule ibérique, ne soufflant mot du problématique séjour à Lyon. Elle a senti que le moment le plus intéressant de cette tournée d'inspection était en réalité ailleurs, chez les Britonesses, les Bretons insulaires, bien sûr. De fait, elle écrit dans les mémoires, la Gaule prospère, l'Espagne opulente me retint moins longtemps que la Bretagne. C'est Adrien qui parle. C'est qu'à Antioche déjà, on s'en souvient, Adrien avait appris que l'agitation régnait dans cette île où la domination de Rome était mise en péril par les Calédoniens occupant la partie septentrionale du pays. Il y avait des péchés comme gouverneur dès 121, un homme extrêmement expérimenté, l'ancien consul Quintus Pompeius Falco, à qui devait être bientôt confiée la plus riche des provinces, celle d'Asie. Contre les Bretons récalcitrants, l'empereur inaugura une politique d'exclusion plutôt que de conquête et d'assimilation, en étant le premier primus de l'histoire Auguste, à construire un mur de 80 000 pas de long pour séparer les Romains et les barbares, chapitre 11. On sait que cet ouvrage, qui va de l'estuaire de la rivière Solway à l'ouest à celui de la Tyne à l'est, est par endroits très bien conservé, plusieurs images le montrent, et son attribution à Adrien a été confirmé dès le 19e siècle par une célèbre pierre inscrite provenant d'un des fortins et qui fait mention du légat d'Adrien, Aulus Platorius Nepos, arrivé en même temps que l'empereur avec la 6e légion Victrix qui avait été déplacée tout exprès depuis la Germanie pour assurer au camp de York et Bourracum, la défense de la frontière septentrionale. Ce sénateur d'origine hispanique, lui aussi, faisait partie des proches d'Adrien. Son cursus nous est connu par une belle inscription d'Aquilée, conservée à Vienne, en Autriche, qui est celle-ci, à droite, que vous avez dans votre dossier. Marguerite Yourcenar l'a utilisée au moins indirectement quand elle évoque sa carrière. On signalera aussi la découverte toute récente, en 2007, d'un nouveau diplôme militaire, à gauche ici, trouvé dans le North Yorkshire, attestant l'octroi par Adrien, qui porta le titre de proconsul, comme c'était l'usage quand il était en déplacement dans les provinces dites impériales, de l'honesta missio, de la retraite avec le bénéfice de la citoyenneté romaine à un fantassin, et cela en vertu d'une constitution, comme on dit, concernant maintes unités de troupes auxiliaires, quae sunt in Britannia, dit le texte, sub aulo platorio nepote, à une date que les indications calendaires permettent de fixer très précisément au 17 juillet 122. La présence d'Adrien aux abords du mur en cet été-là est assurée aujourd'hui par diverses inscriptions, ainsi sans même parler d'un mémorial fragmentaire reproduisant sans doute un discours de l'impérator à la mémoire des soldats tombés au combat, des tablettes, je ne le montre pas, mises au jour dans le fort désormais célèbre de Vinolanda, notamment une supplique adressée à Sa Majesté, « Tuam Majestatem imploro » par un prévenu. Un petit incident marqua le séjour de la cour impériale en Bretagne. On en trouve l'écho dans Mémoire d'Adrien, mais en dehors de son contexte britannique, qui ne fut pas perçu d'emblée par les historiens. Deux membres de l'ordre équestre, qui faisaient partie du conseil de l'empereur, furent révoqués au motif, nous dit l'histoire Auguste, chapitre 11, qu'ils avaient manifesté à l'égard de l'impératrice Sabine un empressement outrepassant les règles de l'étiquette. L'un était le préfet du prétoire Septicius Clarus, l'autre le directeur de la correspondance latine, Suetonius Tranquillus, autrement dit, le biographe des 12 Césars. Il s'agissait sans doute moins de galanterie, car Sabine n'était pas, ou n'avait en tout cas pas, la réputation d'une messaline, que d'intrigues ou de propos malveillants à l'encontre d'Adrien, à qui l'on ne se gênait point d'adresser parfois des critiques, ne serait-ce que pour avoir emmené la cour dans un pays tel que la Bretagne. « Je ne veux pas être César », écrivait ainsi le poète et historien Florus, vous avez ce texte dans votre dossier, « si c'est pour me promener chez les Bretons. Ego nolo caesar esse ambulare per Britannos », etc. L'empereur, lui, aurait aimé ce pays. « Tout m'enchanta dans cette terre pluvieuse », lui fait dire l'auteur des mémoires. On peut penser en tout cas qu'il prit conscience d'avoir marqué durablement, par la construction du mur, le paysage de la grande île. Ce rempart devint l'emblème de mon renoncement à la politique de conquête, page 145 des mémoires. Dès l'automne 122, il lui fallut revenir vers les rivages de la Méditerranée. Pardon, c'est le texte de Florus. De sa traversée de la Gaule, on ne sait rien de précis. Avant l'arrivée dans la vieille province de Narbonnaise, qu'il fut peut-être amené à parcourir dans les deux sens. Une inscription constituée de deux fragments trouvés à Apt dans le Vaucluse, Apta Julia, se présente comme l'épitaphe de Borysthène, le coursier Alain de l'empereur. Le document ayant disparu, on a pu douter de son authenticité, y voir un exercice érudit, conforme à la tradition historiographique qui établit qu'Adrien avait effectivement élevé pour son cheval bien-aimé un tombeau orné d'une épigramme. Cela ressort de Dion Cassius et comme de l'histoire Augule. Celle d'Apte, dont je donne ici une transcription avec la traduction des éditeurs, vante l'endurance de l'animal dans la chasse en Étrurie au sanglier de Pannonie. Une attitude hypercritique n'est plus de mise, en l'occurrence, d'abord parce que le passage d'Adrien à Avignon est rendu très plausible par le nom de Colonia Julia Adriana que prit alors cette ville, comme tant de cités de l'Orient grec. D'autre part, l'aptitude de l'empereur à rédiger de petites pièces en vers, sans parler de son goût pour la lecture des poètes, est chose bien attestée. On en verra un bel exemple en Grèce même. Enfin, son amour des chevaux découle assez naturellement de sa passion déjà évoquée pour la chasse, et plus encore, peut-être, de sa vie itinérante. Comment se pourrait-il qu'avec ses montures successives, il n'ait pas eu un contact fort ? Dès les premières pages des mémoires, à cause de l'obligation où il est désormais de devoir renoncer à monter à cheval, Adrien trouve le moyen d'exprimer, Marguerite Yourcenar trouve le moyen d'exprimer cela avec chaleur. « Si on m'avait laissé le choix de ma condition, j'eusse opté pour celle de centaure. Entre Borysthène et moi, les rapports étaient d'une netteté mathématique. » Page 12. Si l'inscription d'Apte était un faux moderne, il faudrait alors saluer l'habileté du faussaire. Adrien se rendit en tout cas à Nemausus, Nîmes, l'illustre patrie du futur empereur Antonin, où nos sources, l'histoire auguste, comme Dion Cassius, rapportent qu'il fit construire une basilique en l'honneur de l'impératrice Plotine, édifice qui devint, semble-t-il, un temple à sa mémoire après 123. Mais la princesse était probablement encore en vie à cette date, sa mort n'étant pas précisément fixée. D'autres villes de la Narbonnaise durent recevoir la visite de l'empereur, ainsi à Relate, Arles, la cité du rhéteur Favorinos, qui certes n'y était plus domicilié, ayant fait fortune à l'étranger. On le retrouvera plus tard à Athènes. Sur la route qui mena Adrien vers la Tarraconaise, une étape à Narbonne, capitale provinciale, va de soi, mais reste peu ou pas documentée. Dans le cas de Barcino, Barcelone, passage obligé, lui aussi, on peut en revanche risquer une hypothèse. C'est que le cortège impérial dut être accueilli dans cette ville par un personnage considérable dans ce municipe, le consulaire L. Lucius Minucius Gallus Natalis, qui avait fait la guerre d'Assique sous Trajan et devait finalement accéder après une possible période de défaveur au début du règne d'Adrien au proconsulat très important d'Afrique en cette année 122 ou 123, avec son propre fils à ses côtés en qualité de légat, comme l'enseigne une belle inscription de Barcino et d'autres concernant Minucius fils. L'une d'elles, en grec, montre que le personnage tint à briller à Olympie en l'an 129, en remportant, mais évidemment par cocher interposé, la course de Cadrige, c'est donc une inscription d'Olympie même. De Barcino, le cortège impérial s'était dirigé vers Tarragone, la capitale, la capitale de la province d'Espagne citérieure, où Adrien passa l'hiver 122-123, Tarracone Iemavit, comme le précise opportunément ici l'histoire auguste, qui situe également une réunion pan-islamique assez tumultueuse, semble-t-il, beaucoup de cités de droit italique s'étant opposées à une nouvelle levée de troupes. Quoi qu'on en dise souvent, le voyage dut s'arrêter là. Ni alors, ni plus tard, l'empereur n'eut le loisir de se rendre dans sa patria, la lointaine Italica d'Andalousie, dont il dut cependant recevoir une ambassade, à la suite de quoi il s'employa devant le Sénat à obtenir pour ses compatriotes le statut plus honorifique de colonie romaine. Affaire dont on a connaissance par l'écrivain Olugel dans ses Nuits attiques, vous avez ce texte, car Adrien se serait étonné que les gens d'Italica eussent ainsi délibérément renoncé à leur statut ancestral très favorable pour une illusoire promotion. Il fit aussi rénover, alors ou plus tard, la route menant à Italica, ainsi que l'atteste une belle borne miliaire. Mais il n'eut pas le temps non plus, selon toute apparence, et bien qu'ici on prétende parfois le contraire, de rendre visite aux officiers, aux soldats de la 7e Légion Gemina, stationnée au camp de Legio, dans la province de Léone. De l'activité administrative d'Adrien en Espagne témoignent cependant deux beaux documents, comme le rappelle Patrick Leroux, grand spécialiste, dans sa récente synthèse sur la péninsule ibérique. D'abord, les deux célèbres règlements miniers de Vipasca, en Lusitanie, Portugal, qui attestent que l'empereur possédait des mines d'argent et de cuivre dont la gestion était confiée à un procurateur, non sans profit pour le fisc impérial. Notons au passage que Marguerite Yourcenar s'est fondée sur l'existence de cette inscription, ou ces inscriptions, pour supposer qu'Adrien, à l'occasion d'un voyage entrepris dans la péninsule dès les alentours de 110, c'est une hypothèse, pour surveiller l'exploitation des mines qu'il était censé tenir de sa famille, aurait pu constater les effets néfastes jusque dans ces confins extrêmes de l'Empire, des levées de troupes rendues alors nécessaires par la guerre contre les Daces. On voit qu'ici, une fois de plus, l'auteur a très habilement combiné les sources qui étaient à sa disposition sur l'Hispanie. Mais le second grand document d'époque adrianique n'est apparu, lui, que tout récemment. C'est une imposante plaque de bronze, conservée certes en partie seulement, contenant un règlement relatif à l'exploitation de l'eau sur les rives de l'Ebre. Ce texte original est d'autant plus intéressant que s'y font jour des préoccupations assez semblables, somme toute, à celles qui inspirent les mesures prises par Adrien à Coronée de Béotie en vue de réguler le cours des affluents du lac Copaïs, dossier à examiner ultérieurement. Pour en revenir au voyage de 122-123, tout paraît indiquer qu'il fut écourté en raison de nouvelles alarmantes venues d'Afrique et surtout d'Orient, compte tenu de ce que l'une des zones touchées par ces troubles était le pays des Maures, toujours en proie à l'agitation. On admet souvent qu'Adrien, depuis l'Espagne, fit un crochet, si l'on peut dire, par la province de Maurétanie Tingitane, puis par celle de la Maurétanie Césarienne. Mais jusqu'à plus ample informé, cette hypothèse paraît difficile à accepter. En réalité, sans prendre le temps de souffler, il dut se rembarquer pour l'Orient dès l'été 123. C'est que le roi des Parthes, Osroès, ne se montrait à nouveau menaçant en Arménie ou sur l'Euphrate. Pour Adrien, le moment était critique, dans la mesure où c'était sa politique, le bien fondé de sa politique défensive qui était peut-être en jeu. Le déplacement de l'empereur sur le front oriental découle d'une phrase, d'une petite phrase de l'histoire Auguste qui parle d'un entretien colloquium grâce auquel la menace d'une guerre avec les Parthes fut écartée. Ça, c'est au chapitre 12. Mais quel itinéraire Adrien emprunta-t-il pour aller à la rencontre du souverain Arsacide ? Force est de constater qu'aujourd'hui encore, on se trouve extraordinairement mal renseigné sur ce point. On ignore même si, venant d'Espagne ou à la rigueur d'Afrique, il fit halte à Rome avant de cingler vers la Syrie. On a pu penser autrefois qu'il avait emprunté la route terrestre suivie en sens inverse dans son premier voyage, car plusieurs bornes militaires, dont vous avez un spécimen ici connu depuis longtemps, sont datées de la 6e puissance tribunicienne d'Adrien, soit de l'année 122. Mais cette date trop haute ne peut convenir pour le déplacement du prince. Elle dénote tout au plus, chez le gouverneur de la Galatie, le souci d'améliorer le réseau routier en vue d'une guerre possible en Orient. Le voyage accéléré d'Adrien en 123 se fit nécessairement par la voie maritime, mais en plusieurs étapes, bien sûr. Dans les mémoires, Adrien dit avoir fait halte en Lycie, sur la côte sud de l'Asie mineure. On verra toutefois dans une prochaine leçon que le choix de cet itinéraire résulte, chez Marguerite Yourcenar, du désir de faire intervenir dans ce contexte précisément les vergettes lyciens opramoas de Rhodiapolis. En réalité, l'empereur a dû longer la côte africaine, une escale à Carthage et une autre à Leptis Magna sont de l'ordre du probable. Ainsi, on a pu supposer que la réfection d'une route entre Carthage et Théveste, entreprise précisément en 123 par le gouverneur d'alors Publius Metilius Segundus, connu par une inscription d'Italie, soit en rapport avec une escale de l'empereur dans la capitale de l'Afrique proconsulaire. On sait d'autre part qu'à Leptis, il existe des bains d'Adrien, luxueux établissements thermales dont la construction paraît avoir été entreprise précisément en 123. Le cas de Cyrène est un peu différent. On se souvient en effet qu'au moment de son avènement, en 117, le nouvel empereur n'avait pu se rendre d'Antioche en Cyrénaïque, province durement éprouvée par la révolte juive des années précédentes. Mais des inscriptions grecques et latines, publiées en 1950, donc juste trop tard pour être connues de Marguerite Yourcenar, ont révélé que dès l'année de sa seconde puissance tribunicienne, donc à son retour à Rome dans l'été 118, Adrien donna l'ordre de faire restaurer au bénéfice de la cité de Cyrène le Caesareum, ou édifice du culte impérial, qui avait été détruit lors du soulèvement judaïque, to Caesareion Iudaico Taraco Catestramenon. La même année, il fut honoré par cette cité, importante cité, d'une statue de bronze au témoignage d'un socle portant une autre inscription bilingue, c'est celle de droite, au témoignage donc de ce document. L'empereur aurait pu s'en tenir là, mais une intervention personnelle de sa part paraît découler du témoignage de plusieurs sources tardives, les histoires d'Orose notamment, qui relèvent que les guerres menées en Libye furent si féroces, bella atrocissima, que ce pays aurait été complètement dépeuplé si par la suite l'empereur Adrien n'y avait implanté des colonies venues d'ailleurs. Or, dans diverses versions de la chronique d'Eusèbe, la chose est datée de l'année 2136 ou 2137 depuis Abraham, soit 122-123 de notre ère, ce qui ne saurait être fortuit. Au surplus, dès l'époque du géographe Ptolémée, on connaît dans ce pays une ville nommée Adrianopolis, l'actuelle Driana, à situer entre Berenike, Benghazi, et Taoukeira, Tokra, deux villes où l'élément juif, justement, était très actif et dans l'ensemble assez fortuné, dès le 1er siècle de notre ère. Comme l'a montré regretté André Laronde dans un mémoire de synthèse paru en 1988, s'appuyant d'un côté sur les travaux de Applebaum consacrés à la communauté juive, de l'autre sur les fouilles italiennes de Cyrène et celle de la mission française à Apollonia, les gens de cette ville côtière saluèrent Adrien dès l'année 129 du titre de fondateur oikistes, avec la nuance que ce mot comporte par rapport à celui de ktistes, comme l'a montré Suzanne Follet. Et cela sur le piédestal de la statue qu'ils firent ériger d'Adrien dans l'Olympiaion d'Athènes. Le nom d'Adrien survit d'ailleurs à Apollonia sur un fragment d'épistyle que nous examinerons plus tard. Et les Cyrénéens, à qui Adrien adressa bien plus tard une lettre importante, ne furent pas en reste dans leur reconnaissance à l'égard de cet empereur qui pouvait passer à juste titre comme un restitutor libué. Si donc cette étape en Cyrénaïque lors du voyage maritime de 123, revenons sur la carte, est des plus probables, rien n'assure en revanche que l'empereur soit passé de là en Crète, qui était rattachée à cette province de Cyrénaïque. L'île de Chypre également fut sans doute laissée de côté. Une escale à Alexandrie est en revanche vraisemblable, mais elle dut être fort brève en dépit du fait que l'Égypte avait connu l'année précédente des turbulences de caractère religieux qui avaient préoccupé Adrien durant sa traversée de la Gaule. L'empereur se contenta peut-être d'un salut au préfet Titus Aterius Nepos, en place depuis 119, et d'une apparition publique éventuellement devant les Alexandrins. Il fallait gagner Antioche sans tarder, ce qui pourrait avoir été réalisé dès le mois de juin, comme on a pensé pouvoir l'inférer, de la création par Adrien d'une fête qui, selon le chroniqueur byzantin Jean Malalas, devait être célébrée dans cette ville chaque 23 juin. En tout cas, après s'être entouré d'une garde solide, prête à parer à toute éventualité, l'empereur prit au plus vite le chemin de la frontière romano-parthe pour avoir avec le roi Osroès l'entrevue qui était le premier motif de son voyage. Chose curieuse, assez révélatrice du délabrement de nos sources narratives, on ne sait rien de plus sur cette conférence au sommet, dirions-nous aujourd'hui, pas même l'endroit où elle eut lieu. Sans doute Zeugma, sur l'Euphrate, aujourd'hui enfoui dans les eaux de ce fleuve, Doura-Europos peut-être. Il est sûr, en revanche, qu'il y eut accord, puisque la paix fut maintenue entre les deux empires pour toute la durée du principat d'Adrien. Au lendemain de cette victoire diplomatique, l'empereur entame le voyage du retour, dont le premier tronçon reste toujours passablement obscur. L'auteur de l'Histoire Auguste le résumant en trois mots. L'utilité de cette faible notice est de mettre en lumière qu'après avoir parcouru l'Asie et les îles, Adrien se rendit par mer en Achaïe, per Asiam et insulas ad Achaïam navigavit. Le nom Asia pourrait revêtir ici son sens le plus large, car l'empereur ne se dirigea certainement pas tout de suite vers la province d'Asie, contrairement à ce que peut suggérer certaines cartes, mais il suivit la frontière parthe à travers la Cappadoce méridionale pour visiter le camp légionnaire de Mélitène, puis celui de Satala en Petite-Arménie. C'est très vraisemblablement au cours de ce voyage qu'il permit aux habitants du royaume d'Arménie de désigner un souverain. L'information nous vient encore de l'Histoire Auguste, mais sans indication chronologique. Puis Adrien dut faire route en direction du pont Euxin. Il y a en effet une bonne raison d'admettre que la mer Noire fut atteinte à Trapézonte, la Byzantine Trébizonde, ville située au carrefour de voies maritimes et terrestres très importantes. C'est au témoignage du fameux périple du pont Euxin, œuvre du gouverneur de Cappadoce, Flavius Arrianus, plus connu sous le nom d'Arien. Nous reviendrons sur la carrière exemplaire de ce grec de Bithynie. Car l'auteur de ce texte que vous avez dans votre dossier, rapportant son arrivée dans cette colonie de Sinope, écrit ceci en s'adressant directement à l'empereur. « La mère de l'Euxin, c'est avec joie que nous l'avons contemplée juste du même endroit que Xénophon et toi. » Allusion bien sûr au célèbre passage de l'Anabase, où les 10 000 purent enfin s'écrier d'une seule voix après leur longue marche, Thalassa, Thalassa, la mer, il est vrai que bien des critiques, y compris l'éditeur de cet opuscule dans la collection des universités de France en 1995, ont pu penser que le passage d'Adrien à Trapézonte datait d'un voyage ultérieur dans le nord de l'Asie mineure, en 131 seulement, en relation avec une expédition contre les Scythes. Mais on verra que précisément, cette expédition eut lieu en réalité beaucoup plus tôt. D'autre part, en mettant la venue de l'empereur à Trapézonte vers la fin de 123, on s'explique beaucoup mieux que les bomoi, les autels du culte impérial élevés pour Adrien dans cette ville, y aient eu déjà, au témoignage d'Arien, triste mine, taillés qu'ils avaient été dans une pierre médiocre avec une inscription dont les lettres mal gravées, sans parler des fautes de grec, étaient déjà sur le point de disparaître, y compris une statue impériale d'assez faible valeur artistique. À cet ensemble pourrait se rapporter une dédicace à l'empereur, trouvée naguère à Trapézonte même et arbitrairement datée de 131 par l'éditeur. En fait, comme l'a bien vu Helmut Halfmann, approuvé par Ronald Syme, un écart de plusieurs années semble requis entre la visite de l'empereur et celle d'Arien, qui est elle-même datable des alentours de 131. Donc, de Trapézonte, enlongeant la côte selon toute probabilité, Adrien put se rendre assez aisément en Bithynie, où les choses redeviennent un peu plus claires. Marguerite Chaussonnard a fait du séjour bithynien en 123-124, et certains d'entre vous s'en souviennent sans doute, le pivot de toute l'œuvre. Voici en effet comment s'ouvre le chapitre intitulé « Saeculum aureum », qui constitue la partie centrale des mémoires. La formule, ici aussi, est empruntée à une légende monétaire. L'été qui suivit ma rencontre avec Osroès, donc le roi des Parthes, se passa en Asie mineure. Je fis halte en Bithynie pour surveiller moi-même la mise en coupe des forêts de l'État. Subtile allusion à l'environnement très boisé, bien arrosé, des villes situées en arrière de la côte pontique. Prusias de Lipios en particulier, à laquelle Louis Robert a consacré des pages très évocatrices dans son livre « À travers l'Asie mineure ». Yourcenar a préparé ainsi ses lecteurs à l'événement majeur que sera la rencontre, localisée par elle à Nicomédie, de l'empereur avec le bel Antinous, natif de Bithynion, Claudiopolis, dans cette même province. Mais il faut bien voir dès à présent que ni le lieu ni la date de l'événement ne sont connus. En réalité, on ignore tout, pratiquement, de la vie d'Antinous avant sa noyade en l'an 130 dans le Lille. Il est donc préférable de ne pas tenir compte de sa très hypothétique présence aux côtés de l'empereur dans la période allant de 123 à, disons, 128, tout en prenant conscience que, dans l'opinion de l'auteur des mémoires, il est bel et bien présent, et c'est une opinion d'ailleurs qui a partagé encore par un certain nombre d'historiens. Ce qui est certain en revanche, c'est le passage d'Adrien dans les deux grandes cités de la Bithynie occidentale, Nicée et Nicomédie. On estime même avec vraisemblance qu'il passa l'hiver 122-123 au cœur de ce pays, plus présent, précisément donc l'ancienne capitale des rois de Bithynie, Nicomédie, devenue la résidence des gouverneurs de la province Bithynie et Pont. En 123, à l'arrivée d'Adrien dans cette province, le procurateur, écrit Yourcenar, en était Cneius Pompeius Proculus. Mais elle fait observer dans sa note en postface que la date à laquelle le personnage en question fut gouverneur, dit-elle, de Bithynie n'est pas connue. Mais on voit mal pourquoi elle a tenu à faire ici montre de tant d'érudition, puisque ce procurateur n'est connu que par un document bien problématique de Rome. Et au surplus, il aurait été sans doute plus utile d'apprendre qui était à l'arrivée d'Adrien le sénateur qui gouvernait cette province dirigée 10 ans plus tôt par Pline le Jeune. Or, on ne le sait toujours pas, semble-t-il, tandis qu'il importe assez peu de connaître le nom du ou des procurateurs alors en activité, ces agents personnels de l'empereur n'ayant, sauf exception, qu'un rôle politique limité dans les provinces sénatoriales. Mais laissons ce point secondaire pour considérer le cas des deux cités qui se disputaient le premier rang au sein de cette riche province, Nicomédie et Nicée. L'une et l'autre ville avaient été gravement touchées par un tremblement de terre survenu en l'an 120 déjà, alors qu'Adrien se trouvait à Rome. Mais les textes historiographiques qui font état de ce désastre dans le sillage de la célèbre chronique d'Eusèbe, sont donc tous des textes tardifs, précisent qu'Adrien intervint en leur faveur, soit par le truchement de dons en espèces, soit en prenant à sa charge la reconstruction de certains secteurs publics. Lors de son passage en Bithynie en 123-124, il fut certainement soucieux, donc Adrien, de voir où en étaient les travaux de restauration. À Nicomédie, surtout, les traces du séisme devaient être encore bien visibles. Certains monuments privés ont conservé même le souvenir, comme cette stèle funéraire érigée à la mémoire d'un homme qui avait péri en tenant embrassé contre lui, dit l'inscription, ses deux enfants. Ayant retrouvé cette pierre dans les réserves du Louvre, Louis Robert fut heureux en 1978 de pouvoir la republier avec une belle photographie. Mais c'est à Nicée que se trouve le témoignage le plus monumental, peut-on dire, de l'intervention d'Adrien après le séisme de 120. Sur les deux côtés d'une des portes de la ville, en effet, porte de l'Est, dit porte de l'Oïké, l'Efke Kapı en turc, les voyageurs avaient lu depuis longtemps une dédicace à Adrien que les gens de Nicée firent graver au-dessous, d'une dédicace antérieure qui émanait d'un gouverneur de la province sous Vespasien et s'adressait à l'ensemble de la famille impériale, comme aussi à la ville de Nicée, qualifiée de première de la province, protetes eparcheias, mot qui avait été martelé. L'intelligence du texte a beaucoup profité d'une étude consacrée par le même Louis Robert à la rivalité sans répit existant entre les deux grandes cités de la Bithynie, et cela d'abord dans une leçon donnée ici même, non pas dans cette salle, il y a 40 ans, puis sous la forme d'une conférence à Harvard University en 1976, où par le plus grand des hasards, je me trouvais être présent. Enfin, dans une publication très élaborée de 1977, commodément republiée dans le choix d'écrit de ce savant. De façon définitive, peut-on dire, l'épigraphiste français y montrait en premier lieu que la plupart des interprètes s'étaient mépris sur le sens des mots « apo Dionysou kai Heracleus » qui se liste encore au début de la seconde, ligne de la dédicace à l'empereur, en les rapportant à Adrien lui-même, sous prétexte que l'empereur aurait pu se prévaloir de cette double ascendance en raison de son identification à Zeus Olympien, père lui-même de l'un et l'autre de ces dieux. Ainsi, Jean Beaujeu, dans sa synthèse de 1955 sur la religion romaine dans l'Empire romain, encore Marcel Leglet plus tard, car en réalité, ce complément d'origine n'a de sens que pour la ville de Nicée elle-même, dite durette très pieuse, Eusebestate, qui pouvait se flatter, non pas certes d'être la patrie de Dionysos et d'Héraclès, comme seul Thèbes de Béotie avait un droit reconnu à le prétendre, mais du moins d'avoir ses dieux pour patrons, ainsi que le rhéteur Dion de Pruse, en Bithynie même, l'affirme expressément dans un discours on ne peut plus topique, puisqu'il s'agit du discours sur la Concorde à Nicée, où il invoque notamment Dionysos, propator tes de tes poleos, et Héraclès, Octesas Tende Tenpolin, donc le dieu protecteur et le dieu fondateur de la ville, ce qui, au surplus, s'accorde parfaitement avec les types monétaires de Nicée. D'autre part, et surtout, Louis Robert a éclairé la partie de l'inscription qui avait été délibérément effacée à la suite d'un martelage remontant à l'Antiquité elle-même. Dans les inscriptions d'époque impériale, on le sait, le martelage affecte normalement des noms d'empereurs voués à la damnatio memoriae, ainsi Néron, Domitien. Or, on ne saurait avoir affaire ici à un tel cas, puisque les noms et les titres de l'empereur sont, eux, parfaitement conservés. Ce qui fut supprimé, ce sont des titres portés par la ville elle-même, de Nicée, sous le règne d'Adrien. Mais lesquels ? C'était en tout cas celui de Protetes Bitunias Caipontu, première de la Bithynie, et du pont, comme déjà dans l'inscription de l'époque flavienne. En revanche, Robert estimait moins vraisemblable la présence de titres tels que Métropolis, Néocoros, qui eussent été une provocation à l'égard de Nicomédie. D'autre part, il a proposé une explication extrêmement séduisante du martelage lui-même, que les gens de Nicée n'avaient pas dû exécuté de gaieté de cœur, bien sûr, mais sous une contrainte extérieure. La chose avait dû se produire à la suite de la véritable guerre civile qui opposa en 195 le futur Septime Sévère à son principal concurrent, Pessénius Niger, puisque l'historien Hérodien nous informe que la ville de Nicomédie se rangeait alors dans le camp du vainqueur, tandis que Nicée, par haine de Nicomédie, prenait le parti du prétendant malheureux. Il est donc très aisé de supposer que les Nicéens furent forcés de renoncer aux titres par lesquels ils narguaient leurs voisins depuis plus d'un demi-siècle. Cette exégèse lumineuse a bien résisté au temps, en dépit du fait que la lecture même des deux dédicaces adrianiques ait été modifiée dès 1978 par l'épigraphiste turc Sencer Sahin à la suite de la destruction d'une vieille bâtisse qui masquait en partie les inscriptions. Car dans la partie martelée des deux dédicaces, il est désormais établi que doivent être lus aussi le nom Métropolis, de même que l'expression Néokoros ton Sébaston, si surprenant que puissent être ces deux titres accordés à une autre cité bithynienne que l'illustre Nicomédie. Mais n'est-il pas étrange à la réflexion que Nicée ait pu prétendre à ces titres exorbitants pendant plus d'un demi-siècle sans être sanctionné. Telle est en gros l'objection qui a été élevée par l'historienne française Anna Heller dans une thèse parue en 2006, je reviens ici, intitulée entre guillemets « Les bêtises des Grecs, ta Hellenica Amartemata », expression empruntée à l'orateur Dion de Prusse pour caractériser cet esprit de rivalité exacerbée existant entre les cités. D'où l'hypothèse intéressante qu'Adrien, après avoir accordé ou confirmé de façon peut-être imprudente aux gens de Nicée les titres en question, les leur aurait ensuite retirés sous la pression des Nicomédiens. Il n'est pas utopique d'espérer qu'un nouveau document viendra un jour éclairer ce problème. En attendant, on hésitera beaucoup à rejeter l'explication si convaincante de Robert pour le martelage même des inscriptions. Car même dans l'hypothèse où Nicée aurait été obligé de renoncer très vite, sous Adrien encore, à ses prétentions abusives, personne ne put la forcer en temps de paix à se mutiler elle-même en faisant effacer les titres gravés sur deux au moins des portes monumentales de la ville. Il fallut des circonstances exceptionnelles, une véritable défaite militaire, pour que les Nicéens fussent contraints par la volonté d'un empereur présent avec son armée de subir cette humiliation publique. Or, cela paraît bien n'avoir pu se produire que dans le contexte de la lutte pour l'Empire qui se joua sous les murs de Nicée au début du règne de Septime Sévère. Si l'on revient pour conclure cette leçon au voyage de l'empereur en Asie mineure, on sera tenté de penser que dès le printemps 124, Adrien quitta la Bithynie en direction de la côte occidentale, de la péninsule, pour profiter de la belle saison, visiter en toute tranquillité les grandes cités de Troie, d'Éolie, surtout d'Ionie. De fait, on a désormais un très précieux point fixe dans le calendrier de ces déplacements, c'est la grande inscription d'Oinoanda que nous examinerons tout à l'heure, puisque la lettre impériale a été expédiée d'Éphèse le 29 août 124. Le séjour d'Adrien dans le chef-lieu de la province d'Asie ne dut pas se prolonger beaucoup après la fin de l'été, puisque dès septembre eut lieu son départ, très probable, pour Athènes à travers l'Égée. Tel est le schéma assuré. Mais le premier semestre de l'année 124 pourrait bien avoir été en réalité beaucoup moins paisible que l'on ne pense depuis un quart de siècle. En effet, de l'avis de cet autre spécialiste de l'Asie mineure qu'est Johannes Nolle, dans un article très fouillé du périodique Chiron en 2009, tout inviterait à penser, ou plutôt à revenir à l'opinion ancienne, en insérant au printemps 124, et non pas seulement en 131, un voyage en Thrace qui devait aboutir à la fondation, au cœur de la Bulgarie actuelle, dans un endroit très stratégique, de la ville d'Adrianopolis, la célèbre Andrinople, aujourd'hui Edirne. Bon, des bornes militaires, des monnaies, plaideraient dans ce sens. C'est alors que l'empereur aurait conduit depuis Adrianopolis une expédition jusqu'au Danube, pour repousser les invasions des Scythes, expédition à laquelle on peut rapporter les vers facétieux du même poète Florus, déplorant d'abord, on s'en souvient, qu'un empereur eût à voyager chez les Bretons et qu'il dut subir ensuite les frimas du pays Scythe, Scythicas, Pati, Prouinas. À l'aller au retour, Adrien pourrait bien avoir séjourné à Byzance, comme l'invite à penser de stèles qui atteste que l'empereur y fut hieromnémon, c'est-à-dire magistrat éponyme, cela au moins pendant 2 années consécutives. Une mention de ce retour par la Thrace figurait très probablement dans le De Physiognomia de Polémon de la Odyssée, traité malheureusement perdu dans sa version originale en grec. Ce rhéteur des plus fameux, l'un des principaux représentants de la seconde sophistique, comme disent les modernes, fut en effet, des années durant, on le verra, l'un des intellectuels les plus proches d'Adrien, dont il put obtenir nombre de faveurs pour sa seconde patrie, c'est-à-dire Smyrne, alors que l'empereur était de prime abord plus enclin à favoriser Éphèse. Donc de l'avis des meilleurs connaisseurs actuels dans ce domaine, je ne les cite pas ici aujourd'hui, le sophiste pourrait avoir rencontré Adrien, à l'arrivée même de l'empereur, dans la province de Bithynie-Pont, en lui faisant les honneurs, en quelque sorte, de ce pays qui était un peu le sien, puisqu'il se trouvait être le petit-fils du dernier roi du pont galatique. Dans ce cas, il aurait pu accompagner aussi l'empereur au-delà des détroits, vers le pays des Thraces et des Scythes, comme le suggèrent quelques toponymes qui sont inexactement transcrits dans la seule version que nous possédons, celle en arabe, de ce traité. C'est donc en compagnie d'Adrien que Polémon aurait regagné ensuite la province d'Asie, probablement par Cyzique, qui avait été aussi touchée par le tremblement de 120. Il faudra évidemment revenir à propos du second voyage impériale en Asie mineure, sur l'action et toute l'activité d'Adrien dans cette partie du monde grec. Je vous remercie.